Dimanche dernier, nous étions au désert avec Jésus. Vous savez peut-être que en hébreu, désert se dit déber et la parole se dit dabar, c'est-à-dire que pendant le carême, nous sommes envoyés au désert pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, et cette parole de Dieu que nous accueillons nous permet de lutter contre les tentations. Nous l'avons vu, à chaque fois que Jésus était tenté, il donnait une parole de Dieu pour ne pas justement tomber en tentation. Aujourd'hui, nous changeons de décor. Nous montons sur la montagne de la transfiguration avec le Seigneur. Et Jésus, comme on nous le dit dans l'Évangile, nous emmène à l'écart. Est-ce le Tabor ? Est-ce le mont Hermon, cette haute montagne là au nord de la Terre Sainte ? Peu importe. En tout cas, nous savons que la montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Il y a eu dans la Bible la montagne du Sinaï, où Moïse a reçu les tables de la loi, où Élie a entendu le souffle de la brise légère. Il y a eu la montagne des Béatitudes, où Jésus a donné la charte nouvelle des Béatitudes. Il y aura la montagne du Calvaire. La montagne, bien sûr, symbolise le lieu de la rencontre avec Dieu. Et pendant ce temps de carême, nous sommes invités non seulement à aller au désert pour écouter la parole de Dieu, mais à gravir la montagne pour rencontrer Dieu en prenant de la hauteur. Car lorsque nous montons, eh bien, l'air est plus pur et nous laissons finalement la vallée avec toutes nos préoccupations. Et nous pouvons nous approcher de Dieu. Et si le deuxième dimanche de carême, nous sommes invités par l'Église à monter sur la montagne de la Transfiguration pour contempler déjà la gloire de Dieu, c'est pour nous encourager. Le carême dure 40 jours, c'est un temps où nous sommes appelés à faire des efforts, à nous convertir, mais nous risquons peut-être de nous décourager. Et lorsque nous approcherons des jours de la Passion, lorsque nous verrons le Christ humilié, raillé, moqué, eh bien peut-être que nous risquerions aussi de nous décourager et de ne pas voir le soleil de Pâques qui arrivera après tous ces jours de la Passion. Alors si Jésus emmène ses disciples sur la montagne pour y être transfigurés, alors qu'il monte vers Jérusalem pour aller vivre sa Passion, c'est pour les préparer aux événements douloureux de la Passion. Saint Léon le Grand commentait ainsi ce passage. Il disait « Par cette transfiguration, Jésus voulait avant tout prémunir ses disciples contre le scandale de la croix et en leur révélant toute la grandeur de sa dignité cachée, empêcher que les abaissements de sa passion volontaire ne bouleversent leur foi. » Ah, donc, en voyant déjà le Christ transfiguré sur la montagne, eh bien, cela les encouragera à finalement voir au-delà du crucifié le Fils de Dieu qu'ils auront contemplé sur la montagne de la Transfiguration. Reprenons donc ce texte de l'Évangile. Il est extrêmement riche. Matthieu commence par nous dire que Jésus prit Pierre, Jacques et Jean. Il gravit la montagne et nous savons que Pierre, Jacques et Jean sont toujours appelés dans les moments de difficulté, au moment de l'agonie. Pierre, Jacques et Jean seront là également. Pierre, Jacques et Jean symbolisent, nous le savons, les trois vertus théologales. Pierre, c'est la foi, c'est le roc. Jacques, c'est le premier qui sera martyrisé. Il symbolise donc l'espérance. Et Jean symbolise la charité. Les lettres de Saint Jean sont extraordinaires et nous parlent de charité et d'amour. Et finalement, dans les moments parfois un peu difficiles de notre existence, nous devons nous appuyer sur ces vertus théologales. Nous devons nous appuyer sur la foi, sur l'espérance et sur la charité. Alors Jésus est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Et Matthieu nous dit que son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Et une nuée lumineuse apparut qui les couvrit de son ombre. Jésus va changer d'apparence. En grec, c'est le mot métamorpho. Il va, on peut dire, oui, se métamorphoser. Mais ce changement d'apparence nous invite, nous, pas d'abord à un changement d'apparence, mais à un changement de mentalité, à un changement d'attitude, à une pas à une métamorphose, mais à une métanoïa, à une conversion intérieure. Et on voit que le vêtement de Jésus va apparaître blanc, comme la lumière. Nous savons que dans la Bible, le vêtement signifie toujours l'identité. Quand on regarde au début du livre de la Genèse, Adam et Ève vont pécher. Et ils vont perdre leur identité puisqu'ils vont se rendre compte qu'ils sont nus devant l'autre, l'un devant l'autre, et ils vont avoir honte l'un de l'autre. Le vêtement symbolise l'identité. Et dans le psaume 104, on nous dit de Dieu qu'il est revêtu de magnificence, qu'il a pour manteau la lumière, car Dieu est lumière. Et si Jésus est transfiguré devant ses apôtres, si ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, c'est pour signifier qu'il est véritablement Dieu. Voyez, le vêtement signifie l'identité. Lorsque nous avons été baptisés, nous avons revêtu l'aube de notre baptême pour rappeler notre identité de baptisé. Quand le prêtre célèbre l'Eucharistie, il revêt la chasuble pour rappeler son identité sacerdotale. Eh bien, Jésus, ses vêtements vont devenir blancs comme la lumière pour rappeler qu'il est Dieu, car Dieu est lumière. Et sur cette montagne de la Transfiguration, les apôtres vont contempler ce pourquoi ils ont été créés, ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour l'amour, pour la vie, pour le bonheur, pour la lumière. Et saint Pierre, dans sa première lettre, cette première lettre qu'il a écrite pour des néophytes, pour des gens qui ont été baptisés, dira ceci: « Vous êtes une descendance choisie, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. Pourquoi ? Pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Nous avons été baptisés, le jour de notre baptême, nous avons été illuminés par la lumière de Dieu. Et nous devons, autour de nous, annoncer les merveilles de celui qui nous a tirés des ténèbres pour nous faire vivre dans sa lumière. Matthieu le dit aussi à sa manière dans un autre passage, en nous parlant des justes, des saints. Il nous dit « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père ». Ce temps de carême est un temps où nous devons nous ajuster au Seigneur, accueillir cette lumière qui nous vient de Dieu. Et puis, il y a cette apparition de deux personnages, nous le savons, de Moïse et d'Élie. Beaucoup de pères de l'Église ont commenté ce passage de la Transfiguration. Parmi eux, il y avait saint Jean Chrysostome, qui va donner trois raisons à la présence de Moïse et d'Élie auprès de Jésus transfiguré sur la montagne. Première raison, saint Jean Chrysostome va dire que Moïse et Élie représentent la loi et les prophètes. La loi pour Moïse et les prophètes pour Élie. Et en Jésus, toute l'Écriture s'accomplit. Donc, l'Écriture que nous écoutons chaque dimanche et que nous méditons, eh bien, doit nous tourner vers le but de notre existence, la fin, F-I-N, de notre existence, qui est cette contemplation de l'amour de Dieu qui est lumière. Deuxième raison de la présence d'Élie et de Moïse autour de Jésus transfiguré, c'est que ces deux personnages sont les deux personnages de l'Ancien Testament qui ont eu des visions de Dieu. Moïse a vu Dieu, nous nous en rappelons, de dos sur le mont Sinaï, et Élie, lui, va faire la rencontre de Dieu sur la montagne en entendant le murmure d'une brise légère. Et donc, Moïse et Élie annoncent déjà ce face-à-face auquel nous sommes appelés, qui est le but de notre existence. Saint Paul le dit dans sa première lettre aux Corinthiens, « Actuellement, nous voyons de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons Dieu tel qu'il est, face à face. » Alors, il nous invite à nous tourner déjà vers le but de notre existence et pas à regarder simplement les difficultés quotidiennes de notre vie. Troisième raison que donne saint Jean Chrysostome à la présence d'Élie et de Moïse sur la montagne de la Transfiguration, c'est qu'ils représentent les vivants et les morts. Moïse est mort. Élie, lui, on nous dit qu'il a été emporté au ciel sur un char de feu. Et dans un commentaire araméen de la Bible, qu'on appelle un Targoum, on nous dit que Moïse serait mort, et l'expression est belle, sur la bouche de Dieu. C'est-à-dire dans un baiser de Dieu. Donc, il est mort par amour, car ce que nous savons que notre mort sera une rencontre avec celui qui nous aime, qui nous a créés par amour et pour l'amour. Et Jésus est ce nouvel Élie, Jésus est ce nouveau Moïse qui mourra sur la croix. C'est ce que nous allons célébrer au moment de la Semaine Sainte et du Vendredi Saint, le mystère de Pâques, de la mort et de la résurrection. Jésus, nouveau Moïse, nouvel Élie, mourra en remettant son esprit à son Père par amour pour chacun d'entre nous. Moïse et Élie sont là autour de Jésus, ils sont deux. Et vous savez que dans la Bible, eh bien, il y a toujours besoin de deux témoins pour attester d'une vérité. On a besoin de deux témoins qui disent « ce qui s'est passé, ce que nous avons entendu, c'est vrai, un seul ne suffit pas ». Alors ils sont là tous les deux pour attester que ce qu'ils voient, ce qui nous est dit de notre propre résurrection, de notre propre transfiguration, ceci est vrai. Et pour attester que ce que va dire le Père, immédiatement là, ceci est vrai et que nous devons l'entendre et l'accueillir. Alors que nous dit le Père ? Car le Père va parler sur la montagne de la transfiguration. Je lis l'Évangile. « De la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Pendant ce temps de carême, oui, nous sommes invités à écouter le Fils bien-aimé, c'est-à-dire à devenir ses disciples. C'est le nouveau, vous savez, « Shema Israël ». Dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, il y avait ce « Shema Israël ». Écoute, Israël. Le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Mais désormais, parce que nous sommes chrétiens, il ne faut pas simplement écouter Dieu parler à notre cœur. Il faut aussi écouter son Fils bien-aimé. Nous pouvons l'écouter non seulement dans sa parole, mais l'écouter et surtout le suivre en le suivant jusque dans sa passion, jusque dans sa mort, jusque dans sa résurrection. Saint Augustin le disait à sa manière. Dans les confessions, il disait ceci. Par ses paroles, par ses actes, par sa mort, par sa vie, par sa descente sur la terre et son ascension, Jésus nous a crié de revenir à lui. L'écouter, le suivre, c'est revenir à lui, c'est-à-dire nous convertir, nous tourner vers lui pour nous laisser attirer par cette lumière. Il ne s'agit pas tant de faire des efforts nous-mêmes que de nous laisser attirer par cette lumière. Le pape Léon XIV a écrit, comme chaque pape le fait chaque année, un message de carême. Et dans son message de carême, que vous pourrez lire ou relire, il rappelle que le carême implique un chemin qui passe par l'écoute de la parole de Dieu. Je le cite. Il existe un lien entre le don de la parole de Dieu, l'espace d'hospitalité que nous lui offrons et la transformation qu'il opère. C'est pourquoi le chemin du carême devient une occasion propice pour écouter la voix du Seigneur et renouveler notre décision de suivre le Christ en marchant avec lui sur le chemin qui monte vers Jérusalem, où s'accomplit le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Oui, écoutons le Seigneur pendant ce temps de carême. Et il n'est pas anodin que sur la montagne de la Transfiguration, parmi les trois apôtres, il y ait eu Pierre, Simon Pierre. Vous savez peut-être qu'on parle souvent de l'étymologie de Pierre, le roc, mais Simon, c'est la même racine que « Shema », écoute, écoute Israël. Et Pierre va garder dans son cœur le souvenir de cet épisode de la transfiguration qu'il aura vécu. Si nous écoutons la parole de Dieu, nous pouvons la laisser agir en nous et Dieu peut demeurer en nous Et Pierre lui-même, c'est ce qu'il fera. Il le rappellera dans sa deuxième lettre, lorsqu'il dira, dans la deuxième lettre qu'il écrira, Saint Pierre, « Cette voix venant du ciel, cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. » Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. « Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Pierre a vécu cette expérience sur la montagne de la Transfiguration. Il a écouté le Seigneur, il a voulu la garder dans son cœur. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché de renier Jésus au jour de sa passion. Cela n'a pas empêché les autres disciples de l'abandonner. Nous le savons, il faudra que Jésus ressuscite et que sa gloire enveloppe à nouveau ses disciples de sa présence pour qu'ils trouvent le courage de le suivre à nouveau jusqu'au don même de leur vie. Tous les apôtres, à part Saint Jean, mais il aura vécu le martyr à la croix, mourront martyrs et donneront leur vie pour le Seigneur. Alors oui, il faut, pour comprendre cet événement de la Transfiguration, continuer sur ce chemin du carême et pour voir vivre, c'est ce que nous allons vivre dans quelques semaines, le mystère de la résurrection du Seigneur. C'est cela qui pourra nous permettre de connaître totalement le sens de ce mystère de la Transfiguration. Et puis, je termine par cela, quand ils entendirent la voix du Père, que firent les disciples ? Matthieu nous dit, les disciples tombèrent face contre terre. Et si nous allons voir chez Saint Luc, un autre évangéliste qui raconte aussi l'épisode de la Transfiguration, Saint Luc précise, ils tombèrent face contre terre et ils étaient accablés de sommeil. Comme ils le seront d'ailleurs à Gethsémani. Et nous savons que dans la Bible, le sommeil symbolise la mort. Alors, ils sont comme morts. Mais Jésus, nous dit Matthieu, va venir les toucher et il leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte ». Et bien sûr, ce passage symbolise la résurrection. Ils sont morts et ils vont ressusciter. Et nous aussi, nous sommes invités à mourir pour ressusciter. Habituellement, on pense plus souvent au salut en termes de libération que de transfiguration. On nous dit « Il faut être libéré du péché ». Mais on ne pense pas toujours que le salut est d'abord une transfiguration. En réalité, la libération que Jésus nous apporte de nos péchés se réalise pleinement dans la transfiguration. Et pour preuve, nous le verrons, Jésus, lorsqu'il ressuscitera, il sera là et il montrera ses plaies glorieuses qui seront transfigurées. Il nous aura libérés du péché et de la mort en transfigurant toute notre vie, tout notre être. Alors, oui, ce chemin de carême, qui peut parfois nous apparaître austère, est en réalité un chemin de lumière, un chemin de joie, un temps favorable de conversion, de retour à Dieu, en vue de cette union avec lui. Benoît XVI nous disait ceci, et je terminerai par là, « Jésus veut offrir à ses amis les plus intimes l'expérience de cette lumière qui demeure en lui. Ainsi, après cet événement de la transfiguration, il sera en eux cette lumière intérieure qui saura les protéger de l'assaut des ténèbres. Même dans la nuit la plus sombre, Jésus est une lampe qui ne s'éteint jamais. » Alors, fort de cela, n'ayons pas peur d'avancer sur ce chemin du carême qui nous paraît peut-être ardu. N'ayons pas peur de suivre le Christ jusque dans son chemin de la passion, jusque dans sa mort, car nous savons qu'après la mort, nous ressusciterons avec lui. Amen.